RFI, 6h à Paris, 5h en temps universel.
Julien Coquel-Rohem.
Bonjour à toutes et à tous, c'est RFI Matin qui commence avec le journal. Bonjour Gaëtan Planet.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Reportage dès le début de ce journal à Douma dans le sud-ouest syrien.
Ex-bastion rebelle de la banlieue de Damas, là-bas 2 mois après la chute du régime de Bachar al-Assad, la population s'impatiente, elle ne voit pas venir tous les changements qu'elle espérait sur le plan économique après des années de guerre. Car la guerre coûte cher et la RDC, comme le Rwanda, vont s'en rendre compte selon l'agence de notation S&P, alors que le M23 soutenu par Kigali continue son offensive dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans ce journal également, l'ex-président français Nicolas Sarkozy qui annonce se mettre temporairement en retrait de la vie publique et médiatique après sa condamnation à 1 an de prison ferme aménagée par le port d'un bracelet électronique. On parlera de ces élections qui se tiennent aujourd'hui, législatives au Kosovo, législatives et présidentielles en Équateur. On sera aussi au Brésil où un projet d'exploration de pétrole en Amazonie soutenu par le président Lula ulcère les organisations écologistes. Et puis le Real Madrid accroché par l'Atlético hier soir en marge de la 23e journée de Liga, 1 partout entre les deux équipes.
C'était sa première visite en Syrie depuis la chute du régime de Bachar al-Assad. Le chef de l'OIAC, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, était reçu hier par le président par intérim Ahmed al-Shara.
L'organisme s'inquiète de potentiels stocks d'armes chimiques datant de l'ancien régime qui pourraient encore être cachés dans le pays. Inquiétude partagée d'ailleurs par une large part de la communauté internationale. Et cette visite était d'autant plus symbolique qu'elle intervenait 2 mois jour pour jour après la chute de Bachar al-Assad au terme d'une offensive rebelle. Depuis, je le disais, il y a un nouveau président, un nouveau gouvernement aussi. Mais pour les Syriens, les changements ne sont pas flagrants dans leur vie quotidienne. À Douma, ancien bastion rebelle de la banlieue de Damas, reportage de nos envoyés spéciaux Bertrand Éclair et Guilhem Deltey avec Nour Salam.
Le minaret de la mosquée tient encore à peine debout, éventré par les bombardements menés par le régime. Tout autour, les maisons détruites sont nombreuses. C'est le cas depuis 10 ans de celle de Tamers Bani. Ce père de 8 enfants vient de commencer la reconstruction de sa maison.
C'était interdit avant. Une décision du régime d'Assad stipulait qu'il était interdit à la municipalité de laisser poser un parpaing. Si quelqu'un le faisait, il pouvait être emprisonné et pouvait payer une amende.
Mais peu peuvent se permettre de lancer des travaux. Fahed Rehani n'en a pas les moyens. Il vit actuellement dans un logement qu'il loue grâce à une solidarité locale. Mais les priorités des familles moins défavorisées ont désormais changé.
Avant, les bienfaiteurs nous donnaient par exemple 100 000 livres pour payer le loyer. Mais maintenant, ils nous disent « le pays est libéré, il y a d'autres choses plus prioritaires à financer ».
Devant les ruines de sa maison, Maher Raoudi s'estime chanceux de pouvoir encore bénéficier du soutien d'un proche. Mais la situation ne pourra pas se prolonger éternellement, dit-il.
Nous vivons dans la maison de mon cousin qui a quitté Douma et vit à Alep. Mais il veut revenir, on ne sait pas quand, mais peut-être dans 5 ou 6 mois. Et on ne sait pas ce qu'on fera alors.
Et depuis 2 mois, les habitants de Douma n'ont vu aucun représentant syrien ou étranger dans leur ville. Bertrand Éclair, Nour Salam, Guilhem Deltey, Douma, RFI.
Une nouvelle réunion du cabinet de sécurité doit avoir lieu aujourd'hui en Israël. Elle sera présidée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui a annoncé hier l'envoi d'une délégation au Qatar pour participer aux négociations sur la suite de la trêve entrée en vigueur il y a tout juste 3 semaines et dont la première phase est censée s'achever le 1er mars. Une première phase de l'accord qui prévoit des libérations d'otages israéliens détenus à Gaza contre celles de prisonniers palestiniens derrière les barreaux en Israël. Le 5e échange du genre a eu lieu hier. 3 otages israéliens ont été libérés, tout comme 183 détenus palestiniens. Nous sommes prêts à aider le nouveau gouvernement à mettre en œuvre un programme axé sur les réformes et tourné vers l'avenir. Réaction de la chef de la diplomatie européenne après la formation d'un nouvel exécutif hier au Liban. Les tractations auront duré plusieurs semaines, mais elles ont donc abouti à la nomination de 24 ministres mettant fin à plus de 2 années de gouvernance intérimaire. Ce gouvernement, il sera dirigé par le Premier ministre Nawaf Salam, qui affirme qu'il s'efforcera de rétablir la confiance entre les citoyens et l'État, entre le Liban et ses voisins arabes, et puis aussi entre le pays et la communauté internationale.
Un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans l'Est de la République démocratique du Congo, c'est ce que réclament d'une même voix l'EAC et la SADC.
Les deux organisations d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe ont achevé hier leur sommet conjoint par un communiqué dans lequel elles ont établi une liste de décisions à effet immédiat. la cessation des hostilités, la réouverture de toutes les voies de communication, y compris l'aéroport de Goma, le rapatriement des victimes et des blessés, mais aussi un dialogue direct entre Kinshasa et le M23 soutenu par le Rwanda. Pas de déclaration par contre sur la responsabilité de Kigali dans ce conflit.
Un conflit qui n'échappe pas à la règle, qui dit guerre, dit conséquences néfastes pour l'économie.
Et l'agence de notation Standard & Poor's prévient, une escalade pourrait conduire à une dégradation de la note de la RDC et du Rwanda, Alexis Bédu.
D'après l'agence de notation S&P, le Rwanda risque une baisse de l'aide étrangère du fait de son soutien au groupe armé M23. Les effets sur la croissance du pays pourraient être visibles très rapidement puisqu'elle dépend principalement des investissements publics de Kigali financés grâce à ces aides. S&P se base sur la rébellion du M23 en 2012. Les coupes dans l'aide étrangère au Rwanda avaient quasiment divisé par deux la croissance du pays l'année suivante. Le Rwanda détient également une euro-obligation de 620 millions de dollars. Un emprunt qui lui permet de lever des fonds sur les marchés financiers et une crise prolongée avec une baisse de l'aide pourrait entraîner une dépréciation de la monnaie et une dette plus élevée. Quant à la RDC, ce sont ses dépenses en matière de défense qui pourraient épuiser le budget de l'État et creuser le déficit. Autre inquiétude de l'agence de notation, une potentielle baisse des investissements étrangers dans le pays à cause de la guerre. S&P a toutefois décidé pour l'instant de maintenir les notes de la RDC et du Rwanda.
Alexis Bédu du service économie de RFI. Au Mali, 25 civils tués selon l'état-major général des armées. Au moins 32 morts, civils et militaires d'après un autre bilan de sources locales après une attaque vendredi dans la région de Gao, dans le nord du pays. Une embuscade de présumés djihadistes contre un grand convoi civil escorté par l'armée malienne et des mercenaires du groupe paramilitaire russe Wagner.
RFI 6h07 à Paris.
Ce qui veut dire que l'ex-président français Nicolas Sarkozy ne peut pas encore quitter son domicile. Il doit attendre 8 heures comme le lui impose le bracelet électronique qui lui a été posé vendredi. Aménagement judiciaire pour l'année de prison ferme dont il a écopé dans l'affaire dite des écoutes pour corruption et trafic d'influence. Il a réagi hier soir affirmant se mettre temporairement en retrait de la vie publique et médiatique. Annonce faite Raphaël Delvolvé dans un long post sur le réseau social X.
Jamais dans sa publication, Nicolas Sarkozy ne mentionne le bracelet qu'il porte. Il préfère parler, non sans euphémisme, d'une situation particulière. L'ancien chef de l'État semble d'ailleurs faire le choix d'assumer la sanction à laquelle il est condamné, puisqu'il annonce renoncer à demander un aménagement de peine, ce qu'il aurait pu faire depuis le 28 janvier dernier et son 70e anniversaire. En effet, son âge aurait pu, si le juge était d'accord, lui éviter le port du bracelet électronique. Mais l'ancien président dit ne pas vouloir donner le sentiment d'être privilégié. Toutefois, il continue d'affirmer qu'il est victime d'une injustice avec cette condamnation à 1 an de prison ferme. Il annonce d'ailleurs déposer un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme d'ici la fin du mois. La CEDH peut cependant mettre plusieurs semaines, voire plusieurs années à rendre ses décisions. Nicolas Sarkozy pourrait donc voir pendant une année complète ses faits et gestes sérieusement restreint.
Raphaël Delvolvé.
Ouverture des bureaux de vote dans moins d'une heure au Kosovo.
Élection législative pour élire les 120 députés. Pas d'immense suspense. Le Premier ministre sortant Albin Kurti et son parti sont favoris. Ce sera plutôt une sorte de sondage de popularité sur sa politique. Une politique ferme vis-à-vis de la Serbie qui ne reconnaît toujours pas l'indépendance du Kosovo.
On vote aussi en Équateur ce dimanche.
Élection générale cette fois, législative et présidentielle. Et pour cette dernière, la présidentielle, 16 candidats, dont l'actuel chef de l'État libéral Daniel Noboa. Il fait partie des favoris, tout comme l'opposante de gauche Luisa González. Ils s'affrontent dans les urnes, mais avec un défi commun à Rimini Leopold, celui de stopper le narcotrafic.
L'un fait campagne en gilet pare-balles, l'autre à vélo. L'un est fils de milliardaire avec une fortune acquise dans la production de bananes. L'autre est avocate et mère célibataire. L'un veut se faire réélire en misant sur la volonté de combattre le narcotrafic. L'autre parle de justice sociale sans oublier la sécurité. Daniel Noboa et Luisa González, deux profils diamétralement opposés à l'image d'un pays divisé sur une question clé. Qui est le mieux placé pour affronter les deux grands défis, la violence liée aux trafiquants de drogue et la crise économique? Plus d'un quart de la population vit dans la pauvreté. Malgré ces crises multiples, le président sortant est en tête des intentions de vote. Mais son avance risque de ne pas suffire pour l'emporter dès le premier tour. Et lors du second tour, prévu le 13 avril, la candidate correiste Luisa González pourrait bénéficier d'un report de voix important, celui de l'électorat autochtone et des classes moyennes urbaines, deux votes clés du scrutin.
Précision. région d'Arim Lipold.
On reste sur le continent sud-américain, direction le Brésil.
Hôte de la prochaine COP, la COP 30 sur le climat, ce sera en novembre. Le Brésil, où dans le même temps, le président Lula défend un vaste projet d'exploration de pétrole en Amazonie. Ça ne manque pas de faire réagir les associations écologistes, évidemment opposées à un tel projet. Correspondance à Rio de Sara Cozzolino.
Y a-t-il une contradiction entre la volonté affichée du gouvernement Lula de préserver l'Amazonie et d'exploiter en même temps le pétrole dans la région ? Pas du tout, selon le président brésilien.
Nous voulons le pétrole car il va encore exister longtemps. Il va nous servir à financer la transition énergétique qui va nous coûter très cher.
La région en question, connue sous le nom de Marge Équatoriale, s'étend sur 6 états du Rio Grande do Norte à l'Amapá. 350 000 km² qui pourraient rapporter 10 milliards de barils de pétrole au Brésil. Le géant étatique Petrobras tente depuis 2020 d'obtenir un accord de l'Institut brésilien de l'environnement, l'IBAMA. C'est le nouveau mandat d'un représentant de l'AMAPA à la présidence du Sénat qui a permis d'accélérer les discussions sur le sujet. Des pressions politiques qui vont à l'encontre de l'objectif de réduction des gaz à effet de serre, selon Carlos Noble, climatologue.
Ouvrir de nouvelles exploitations n'a aucun sens dans aucun endroit du monde. Au contraire, il nous faut interrompre les exploitations de mines de charbon, de pétrole et de gaz naturel qui existent.
Huitième producteur de pétrole au monde, le Brésil sera scruté de près par les défenseurs de l'environnement à moins d'un an de la conférence sur le climat. Sara Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Pas de grand chelem pour l'équipe de France de rugby au tournoi des Six Nations. Une large victoire inaugurale face au Pays de Galles la semaine dernière, mais une défaite de justesse hier soir, cette fois face à l'Angleterre, 26-25. Prochain adversaire des Bleus, l'Italie, ce sera le 23 février. Les Italiens qui ont battu les Gallois hier soir, 22-15.
Et il y avait aussi du foot.
Avec la 23e journée de Liga en Espagne. Et le Real Madrid espérait sûrement mieux à quelques jours de son barrage aller de la Ligue des Champions. Les Madrilènes n'ont pas fait mieux qu'un partout contre leur voisin et rival, l'Atlético Madrid. Le récit du match avec Pierre Chaperon.
Un Real aux deux visages. Le premier ronronnant, son tir cadré et un pénalty concédé en première période. Le deuxième plus incisif, un cran au-dessus et qui égalise dès le début de la seconde mi-temps. Pour Javier, la trentaine, le sentiment après la rencontre était mitigé.
On a le sentiment que la victoire nous a échappé. Lorsqu'on a égalisé, on avait la possibilité de marquer deux ou trois buts de plus. La chance n'a pas été de notre côté.
Encore une fois, c'est Kylian Mbappé qui a sauvé les siens. Un 9e but en 2025, le Français en forme qui a sonné la révolte. Le Real a ensuite buté sur la défense de l'Atlético. Un scénario du match qui n'a pas angoissé Enrique, la vingtaine. Il y a même de quoi être optimiste pour le match face à Manchester City.
Le Real a toujours montré que même s'il fait un mauvais match, il peut toujours bien faire, qu'il montre le meilleur et que ça se termine bien. On continue d'être confiant comme on l'a toujours été et ça a toujours bien fonctionné.
En tête du championnat, le Real devra montrer plus de constance dès mardi en Ligue des Champions face au Manchester City de Pep Guardiola. Pierre Chaperon, Madrid, RFI.
Et puis ce n'est pas à Madrid mais à Grenade que se tenait hier soir la cérémonie des Goya, sorte d'équivalent espagnol des Oscars. Et le prix du meilleur film européen a été remis à Emilia Pérez du français Jacques Audiard. Un prix malgré la polémique sur d'anciens tweets racistes de son actrice principale Carla Sofia Gascon. Il faut dire que le jury des Goya avait voté avant cette polémique qui pourrait toutefois lui coûter des statuettes pour les Oscars alors que le film est nommé dans 13 catégories.
Merci Gaëtan Planet, à tout à l'heure. Dimanche 9 février 2025, bienvenue à vous. RFI Matin, 3 heures d'information et à la une. La fin hier du sommet conjoint de l'EAC et de la SADC en Tanzanie, les organisations régionales d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe qui demandent un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans l'Est de la République démocratique du Congo, alors que l'offensive sur le Nord et le Sud Kivu du M23 soutenue par le Rwanda a fait au moins 3000 morts en 2 semaines selon les Nations Unies et que les organisations humanitaires décrivent une situation terrible sur place.
Beaucoup des stocks ont été détruits ou pillés lors de la bataille de Goma. Énormément de médicaments manquent. Les besoins en aide humanitaire sont considérables et on a aujourd'hui des hôpitaux débordés et des humanitaires qui sont présents, qui sont prêts à agir, mais qui sont très inquiets sur la façon dont ils vont pouvoir continuer à travailler dans les prochains jours.
Le directeur du forum des ONG internationales dans l'Est de la RDC dans le prochain journal à 5h30, temps universel. L'actualité ce matin, c'est aussi le retour en Israël de 3 otages et la colère de l'État hébreu face à leur état de santé, alors que leur libération a une fois de plus aussi fait l'objet d'une mise en scène très orchestrée par le Hamas. Israël a libéré de son côté 183 prisonniers palestiniens. Reportage à leur retour à Ramallah avec Abla Junaidi. Ce sera dans le journal de 6h, temps universel. Mais pour commencer ce matin, c'est en Bolivie que nous partons, au cœur de la forêt amazonienne et dans la réserve naturelle de Pilon Lajas, menacée comme tant d'autres. Les mineurs travaillent dans les rivières pour y trouver de l'or, les contrebandiers y pratiquent le trafic de bois et d'animaux sauvages, des activités qui menacent la nature, la biodiversité bien sûr, mais aussi les communautés autochtones qui peuplent la zone. Alors pour se protéger de l'avancée des mineurs, elles organisent chaque mois une patrouille le long des frontières du territoire. Notre correspondant Nils Sabin les a suivis. Reportage.
Il est un peu plus de midi quand la patrouille quitte finalement le port de Rurrenabaque en Amazonie bolivienne. Au programme, un jour et demi à sillonner la rivière Beni, l'une des frontières naturelles du Pilon Lajas, à la recherche de potentiels chercheurs d'or illégaux. Madeline Guzman fait partie de l'organisation autochtone du territoire. Elle nous explique la procédure quand ils rencontrent des mineurs.
Si c'est la première fois, on le rappelle à l'ordre et on le fait sortir de la zone. La deuxième fois, on le sanctionne en saisissant tout son matériel. Au bout de la troisième fois, on porte plainte et on avertit les autorités.
Après 4 heures à remonter le Beni sans embûche, nous arrivons à l'un des campements des gardes forestiers du Pilon Lajas. Une petite réunion de coordination est organisée. La patrouille reprendra le lendemain matin avec au moins un garde forestier présent.
Ils protègent la zone et nous aussi, donc nous avons tout intérêt à collaborer. Et comme ils connaissent bien le secteur, ils peuvent aussi nous guider au besoin.
Pendant la soirée, Lander Beyuma, l'un des gardes forestiers, détaille le peu de moyens dont il dispose pour empêcher l'arrivée de mineurs ou de contrebandiers. Un manque de ressources qui va parfois jusqu'à l'absence de carburant pour patrouiller aux frontières de la réserve.
Avant, nous étions 20 gardes forestiers. Maintenant, nous ne sommes plus que 11. Avec ces 9 effectifs en moins, c'est très dur de protéger les 400 000 hectares de la réserve naturelle du Pilon Lajas.
Le lendemain, nous atteignons la limite du Pilon Lajas. Aucune activité minière n'est détectée pendant le trajet. Pourtant, pour Hermino Vies, vice-président du conseil régional Timan Moseten, la situation est préoccupante.
Nous nous trouvons devant le ruisseau Naranjani, qui est la limite du territoire. À 1 mètre environ de l'autre côté, nous avons constaté la présence de mineurs qui cherchent de l'or.
Bien que ces activités minières ne soient pas dans le territoire du Pilon Lajas, le mercure utilisé est rejeté dans le Beni, empoisonnant à petit feu l'eau, les poissons et les populations locales. Pour Madeline Guzman, l'un des principaux responsables de cette situation n'est autre que l'État.
Ce que souhaite l'État, c'est développer l'industrie minière, quitte à mettre en péril nos territoires. C'est ce qu'il a toujours souhaité. Et si on ne se mobilise pas, c'est sûr qu'il ne va pas nous écouter. Donc on lutte. On représente la voix de nos communautés et on ne baisse pas les bras.
Une détermination plus que nécessaire pour faire face aux incessantes tentatives d'intrusion des chercheurs d'or dans le Pilon Lajas et surtout supporter le silence de l'État bolivien. Nils Sabin, sur les rives du Beni, RFI.
Notre reportage international en Bolivie à retrouver sur RFI.fr et notre application Pure Radio. L'actualité politique en France, comme chaque dimanche, le Premier ministre et son gouvernement ont franchi une première étape en adoptant le budget cette semaine après que 2 motions de censure ont été repoussées à l'Assemblée. François Bayrou sauve donc sa tête et celle de son équipe. Bonjour Charlotte Urien-Thomacin.
Bonjour Julien.
L'horizon politique se dégage quelque peu pour François Bayrou, mais la route reste semée d'embûches dont certaines vont arriver rapidement.
Oui, prochaine étape pour le Premier ministre, la motion de censure spontanée que le PS déposera dans quelques jours. En cause, les propos de François Bayrou sur, je cite, le sentiment de submersion migratoire. Mais là encore, peu de chances pour que cette motion soit adoptée. Le RN ne devrait pas la voter. Et LFI, qui n'a pas apprécié le non-vote par les socialistes de leurs 2 motions de censure cette semaine, ne la soutiendra sans doute pas non plus. Et après cela, à moyen terme, l'avenir est tout aussi incertain. La réforme des retraites, par exemple, actuellement en discussion au sein d'un conclave, comme il l'appelle, entre partenaires sociaux pendant 3 mois, sera aussi un tournant pour le mandat de François Bayrou.
Mais dans l'entourage du Premier ministre, on est confiant ?
Oui, ses proches estiment qu'il peut désormais tenir jusqu'à l'automne en y allant, je cite, étape par étape, disent-ils, et ajoutent qu'ils sont confiants. Il faut dire que pour le moment, la stratégie du Premier ministre fonctionne. Il a réussi à franchir plusieurs haies sans être censuré, celle de la déclaration de politique générale, pour laquelle il n'y a pas eu de motion de censure adoptée, et donc maintenant le budget et le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Alors ça ne veut pas dire non plus que tout est rose, loin de là. On marche sur des œufs, me confiait un député du camp du Premier ministre, mais on avance.
Et il faut dire que même dans le bloc central, les alliés ne font pas de cadeaux au Premier ministre.
Oui, chez les Républicains, d'abord, le Premier ministre reste perçu comme un allié défaillant, voire un traître, alimenté par Nicolas Sarkozy. Cette rancœur ne remet pas en cause la participation des LR au bloc central. Mais le patron du groupe LR, Laurent Wauquiez, entretient des relations compliquées avec le Premier ministre. Dans une interview donnée récemment au JDD, le député expliquait que la droite ne ferait pas de cadeaux au gouvernement, notamment sur les sujets qui fâchent, comme la proportionnelle, dont LR ne veut pas entendre parler, et cheval de bataille de François Bayrou, bien sûr. L'immigration est également un sujet sensible qui pourrait enflammer le bloc central dans les prochains mois. Alors au-delà de la gauche et du RN, pour le Premier ministre, la méfiance reste de mise, même avec son propre camp.
Charlotte Urien-Tomaca du service politique de RFI, merci beaucoup. À l'heure où tous les regards se portent sur l'Amérique de Trump, le conflit au Proche-Orient ou la guerre en Ukraine, une région du monde devient en silence toujours plus centrale par son poids géopolitique et économique. L'Asie-Pacifique, nouveau centre du monde, c'est justement la thèse du livre coécrit par deux grands spécialistes de l'Asie, Sophie Boisseau-Durocher, chercheuse à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et Christian Lechervy, diplomate et notamment ancien ambassadeur de France en Birmanie. Par Asie-Pacifique, les deux auteurs entendent l'Asie orientale, de la Birmanie au Japon. Quels enjeux pour cette région à l'heure du retour au pouvoir de Donald Trump et face à la Chine ? Sophie Boisseau-Durocher répond aux questions de Joris Zilberman.
Sophie Boisseau-Durocher, bonjour.
Bonjour.
C'est l'une des idées forces de votre livre. L'Asie-Pacifique est en voie de désoccidentalisation, c'est-à-dire ?
Ça veut dire qu'elle a de moins en moins besoin des circuits occidentaux pour se développer. En fait, on est parti d'une constatation. Nous avons commencé, Christian Lechervy et moi-même, à étudier cette région il y a 35-40 ans. Et ce qui a vraiment changé, c'est que les partenaires occidentaux étaient vraiment au centre des jeux, au centre des influences il y a encore 35 ans, et qu'aujourd'hui, ils sont à la marge. L'Asie s'innerve de plus en plus et se nourrit de plus en plus de ses propres dynamiques. Et donc, il y a là un vrai risque parce qu'elle défie nos positions traditionnelles, évidemment des positions économiques, mais également des positions diplomatiques ou politiques. L'Asie Pacifique, aujourd'hui, a le potentiel de se poser comme une alternative crédible au modèle occidental, ce qui n'était évidemment pas du tout le cas il y a une trentaine d'années.
Alors vous écrivez avec Christian Lechervy que l'une des tendances géopolitiques les plus importantes en Asie-Pacifique, c'est le recentrage asiatique, la régionalisation. Comment est-ce qu'elle se manifeste ?
Cette régionalisation se fait d'abord par les réseaux marchands et les réseaux financiers. Aujourd'hui, le commerce intra-asiatique, d'une part par sa croissance et d'autre part par son poids, qui équivaut à peu près à 60% du commerce extérieur de la région, se fait donc dans la région. Le gisement de croissance pour les pays d'Asie se trouve de plus en plus dans les pays d'Asie. Il y a aujourd'hui, sur les 2,3 milliards d'habitants de l'Asie orientale, 800 millions de milléniaux, quand il y en a 66 millions aux États-Unis et 60 millions en Europe. Et ces 800 millions de milléniaux ont un pouvoir d'achat qui augmente régulièrement.
Sophie Boisseau-Durocher, dans cette logique de régionalisation, la Chine joue un rôle majeur, bien sûr. Pourtant, elle peut faire figure d'épouvantail avec ses revendications maximalistes et coercitives en mer de Chine du Sud. Comment expliquer cette contradiction ?
C'est évident qu'il y a une crainte de la domination, entre guillemets, chinoise dans la région. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les relations avec le Japon, avec la Corée du Sud, se renforcent avec l'Asie du Sud-Est, pour faire contrepoids aux ambitions de la Chine. Mais la Chine fait des efforts quand même, en même temps qu'elle envoie des messages de rigidité et effectivement d'agressivité au monde occidental par l'occupation de ces villes, elle envoie aussi des messages en même temps de réassurance à l'égard des pays d'Asie du Sud-Est, dans le cas de la mer de Chine du Sud. Et d'ailleurs, les discussions sur le fameux code de conduite sont toujours en cours et sont toujours vivantes. Mais nous, on se dit, mais c'est pas possible, ça fait depuis 20 ans que ça dure. Les pays d'Asie du Sud-Est, comme moi, je les interroge, mes collègues me disent, mais il vaut mieux qu'on soit en discussion et que ça ne dérape pas, plutôt qu'on signe rapidement un code de conduite qui nous soit défavorable. Donc c'est véritablement une autre mentalité et il faut que nous, on l'intègre aussi.
Dans ces conditions, qu'est-ce que vous pensez de la position des États-Unis en Asie-Pacifique alors que Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche ?
L'Asie-Pacifique est aujourd'hui une région qui va le mieux résister aux injonctions et aux menaces de Donald Trump, parce qu'elle s'est précisément organisée. Donald Trump a menacé 60% de droits de douane. Aujourd'hui, on est à 10%. Et encore, c'est même pas sûr qu'il soit appliqué. On va peut-être aller vers des compromis. Donc, on voit bien que cette transformation silencieuse de l'Asie-Pacifique fait réfléchir quand même président américain. Ce que pensent également les pays d'Asie, c'est que le phénomène Trump n'est pas un phénomène nouveau. Au fond, il incarne ce Donald Trump et il accélère une tendance qui est à l'œuvre en Asie orientale depuis la guerre du Vietnam. Et depuis cette guerre, les États-Unis agissent de façon unilatérale.
Sophie Boisseau-Durocher, merci beaucoup.
Merci à vous.
Sophie Boisseau-Durocher, chercheuse à l'IFRI avec Joris Zilberman. Et sur RFI, bientôt 5h30, en temps universel, avant le journal, on reparle d'intelligence artificielle en ce week-end de discussion entre grandes figures du secteur à Paris et à la veille du début du sommet mondial pour l'action sur l'IA, une centaine de dirigeants attendus dans la capitale française. Tout le week-end, sur RFI, pour l'occasion, vous retrouvez nos émissions en public à la Bibliothèque Nationale de France et tout à l'heure, un épisode spécial de l'Atelier des médias. Parmi les invités de Steven Jambeau, Antoine Bayet, directeur éditorial de l'Institut National de l'Audiovisuel, l'INA, qui a piloté pour l'ensemble des groupes de l'audiovisuel public français une cartographie des enjeux et usages de l'IA pour le journalisme. Il nous la présente.
Très classiquement, en fait, on a essayé de faire un état des lieux un petit peu et de réussir à évaluer cette révolution IA et son impact sur la chaîne de production de l'information. Et ce qu'on a cherché à faire, c'est d'identifier les conséquences, non pas de telle ou telle outils, non pas en tant que marque, mais en tant que potentiel facteur qui va bousculer, qui va faire évoluer la manière dont on pratique le journalisme. Il n'y avait pas vraiment aujourd'hui de cartographie qui mettait en face des différentes fonctions du journalisme les outils qui sont aujourd'hui ceux générés par l'intelligence artificielle générative. En fait, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui quand on est dans un média de réussir à appréhender ce que l'IA générative peut vraiment faire ou non sur la fabrique du journalisme. C'est encore plus vrai quand on est par exemple une petite rédaction, parce qu'il y a un travail de veille, il y a un travail d'identification des enjeux qui est constant. Et donc effectivement, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est une proposition qui permet à des rédactions, qui permet à des rédacteurs en chef, qui permet à des journalistes de se dire, ok, cet outil a une utilité pour moi si je le regarde avec ses critères, par exemple, de maturité, avec ses critères d'impact environnementaux. Oui, c'est aussi quelque chose qui est très important là-dessus. Donc on permet à chacun, après ça, dans des rédactions, c'est clairement un outil qui est destiné à des journalistes, de se placer sur des curseurs et ainsi de se dire, ok, cet outil-là, j'ai intérêt, moi, quand je suis RFI, moi, quand je suis l'INA, moi, quand je suis un site d'information ailleurs, j'ai intérêt à l'utiliser.
Antoine Bayet, directeur éditorial de l'INA, que vous retrouvez à 11h10, temps universel sur RFI, dans l'atelier des médias, pour évoquer cette cartographie de l'IA dans le journalisme. C'était une émission à la Bibliothèque Nationale de France, où vous retrouvez aussi Musique du Monde, tout à l'heure, l'intelligence artificielle et la musique. On en parlera à 20h10, temps universel, avec Laurence Alloire et le journal, dans une minute. À tout de suite.
Le Club RFI, Éric Amiens. Alors qu'il va fêter son premier anniversaire, le club RFM Mundu du Tchad présente le programme de ce grand moment placé sous le thème « Les jeunes du Logone occidental face aux enjeux climatiques et numériques ». Il parle aussi de ses initiatives, notamment son engagement pour lutter contre la violence faite aux femmes.
Le club RFI, Éric Amien.
Tout à l'heure, à partir de 19h41.
RFI.
Cool.
Couleur tropicale, Claudiciard.
Ce lundi 10 février, Koffi Olomide fera ses couleurs tropicales et annoncera son concert-événement prévu le 19 juillet à l'Hippodrome de Vincennes, près de Paris. L'occasion de parler musique, bien sûr, et d'évoquer la situation en RDC. Koffi Olomide dans Couleur tropicale, c'est toujours un événement.
Couleur tropicale, Claudiciard.
Du lundi au vendredi à 20h10 TU sur RFI.